écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 10 avril 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la représentation de Théâtre No que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Eh ben, amis auditeurs, Thomas n'est pas là, donc c'est moi qui vais prendre ma voix d'hôtesse tréfipienne pour faire l'ouverture
Xavier.
D'antenne. Pas maintenant, s'il te plaît, Bruce, merci. Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 3 avril.
Quoi ? Faut que je te parle.
Oui, non, mais attends.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Quastreak. Et la participation exceptionnelle de JB.
Non, non, mais je te jure, il m'a tapé, mais comme un âne, hein, cette andouille de Bruce. Non, mais regarde, j'ai encore la bosse, là.
Bah ouais, c'est vrai. Mais,
non, mais ça fait mal,
c'est pas une grande différence par rapport... Non, pardon.
Par rapport à quoi ?
Non, d'habitude, j'allais dire, mais c'était une vacherie.
C'est une vacherie à... Pourquoi dire, là
C'est une vacherie japonaise.
Bonjour et bienvenue, nous sommes donc en direct du TGS Wanami qui a lieu... excusez-moi, on a beaucoup trouvé. Nous sommes en direct donc du TGS Wanami qui a lieu en direct de la... on est en direct en fait de la Beige...
à l'espace Diagora, oui.
Et excusez-nous, il y a beaucoup de bruit ambiant et c'est assez difficile en fait de tout gérer. On est sorti des studios tout simplement parce que c'est vrai que tous les ans, c'est une tradition qu'on a à l'antenne depuis une petite quinzaine d'années. On fait un programme sur la culture. Au départ, c'était parce que c'est la rentrée télévisuelle japonaise et en même temps, c'est la rentrée des classes. Donc, il y a des nouvelles séries de mangas qui arrivent.
Et le printemps des cerisiers.
Voilà, et le printemps des cerisiers. Hein, c'est ça qui est le plus important. Et parce que c'est très beau. Voilà.
Oui, c'est rose.
C'est magnifique. C'est rose. C'est blanc.
C'est blanc.
C'est blanc des pétales de cerisier. Ah, oh, c'est pas vrai. Et en fait, eh ben, on a poussé les murs en dehors et on est venu tout simplement parce que ça faisait 15 ans. Quand on avait lancé, on regardait un petit peu comme ça, ouais, des mangas, bon, quelques dessins animés et quelques séries, mais après, sans plus. Et là, maintenant, quelque chose d'exceptionnel, on a un festival qui a lieu à Toulouse en ce moment, là où on est, c'est le TGS Wanami, TGS pour Toulouse Game Show, dont on vous a déjà parlé pour les trois précédentes éditions, et qui là, ben, se déroule, on fait un petit spin-off, si je puis dire,
voilà.
Plus amical, je veux dire, dans l'esprit...
Ouais, on va dire moins vidéoludique et plus orienté...
Moins série télé, moins comics, voilà. Et plus orienté, en fait, de... culture japonaise en général, c'est-à-dire ce qui fait un petit peu ouais. L'ambiance.
Même si à quelques membres du SGC qu'on a vu passer quelque part avec des mitraillettes là tout à l'heure, mais...
Non, c'était pas les mêmes.
C'était pas les mêmes.
C'était pas les mêmes. Bonjour Duce, tu vas bien ?
Ça va.
Voilà, désolé, le...
On règle en direct.
On se règle, voilà, parce que c'est pas évident de régler tout ça.
Alors...
Et en fait, donc, on est là, alors toi, je sais, c'est pas trop ta culture, la manga.
Ouais, ouais. Mais je crois que t'es obligé de dire quelque chose à propos de justement le mois d'avril au Japon. Je crois que c'est également la rentrée des classes.
Oui, mais je l'ai dit, oui.
Ah bon, bah, excuse-moi.
Voilà, donc évidemment, il n'y a pas que ça bien qui a lieu. On a aussi bien, d'abord il y a des cosplays et tout ça, et on a un superbe exemple juste en face.
Non.
C'est la concurrence déloyale, ils ont des filles qui se trémoussent sur la musique.
Non, on en a profité, on a aussi fait des photos, merci mademoiselle.
Merci. Et en même temps, il y a plein d'autres choses qui sont présentes. Il y a des salons de thé qui vont faire des démonstrations de cuisine et de plein d'autres choses. Il y a aussi du sport, des sports traditionnels avec le Kyudo.
C'est plus de l'art hein, qu'on pourrait dire même.
Art martial, tu comprends ?
De l'art martial, oui. Plus que du sport.
Solarus, qui était déjà présent sur notre plateau en studio. Bonjour.
Salut.
Alors, bravo, magnifique cosplay.
C'est pas un cosplay, c'est ma tenue de kudo.
Ah, c'est pour ça que tu prenais l'arc. Non, non, pas sur moi. Parce que pitié. Donc en fait, toi, tu es présent là tout à l'heure pour une démonstration qui aura lieu, je crois, à partir de 5h.
Voilà, à 17h, à côté de la scène, on fait une démonstration de Kudo.
Ok. Dus. Alors, oui, vas-y.
Si tu montes le micro, ça ira mieux, voilà.
Non, mais on va pas interviewer les Padawan. On va attendre les sensei, non, pour parler de Kudo.
Oui, je pense que c'est le mieux. Il y a plein d'autres choses qui sont présentes. Toi, tu as fait un petit peu le tour. Il y a des choses qui te plaisent. Je veux dire, en dehors des bandes d'arcade et des trucs de pop japonaise.
Ah non, mais il y a des stands vraiment intéressants. Il y a, les étudiants en japonais qui ont fait leur stand. Il y a les arts martiaux, taijutsu, karaté, tout ça. Il y a forcément les dédicaces qui vont sont pas enfin il y a pas trop de monde, ça va, on pouvait aller vous faire dédicacer tranquillement une BD de Davy,
pitié, ça a rien à voir avec le Japon, attends, on laisse.
Autant pour moi.
Non merci,
on a une demoiselle
pas pendant que je conduis
une dégustation. Mais repassez plus tard, merci.
Je savais pas que c'était japonais, rouleau de printemps. Bref, on va parler pas mal de Boostify, je sens, si on continue comme ça. Il y a des représentations aussi, je crois qu'il y a du karaté, il y a quelque chose un peu plus offensif, si je peux dire.
Oui, il y a voilà, un stand qui fait karaté taijutsu, et également pour les stands sur le Japon traditionnel, il y a Okini, qui vous sert du thé et des plats très très sympas, purement japonais.
T'as dégusté les plats pour l'instant ? Pas encore ?
Là en fait, elle vend des boissons et des gâteaux importés du Japon, et là elle est en train de faire des takoyaki, je vous invite à les goûter.
C'est quoi les takoyaki ?
Habituellement c'est des boulettes à base de poulpe, mais là elle les a fait au chocolat, des trucs beaucoup plus...
Beaucoup plus fun. D'accord.
On verra ça. Il y a plein d'autres petits spectacles et tout ça. Vous entendez la musique, je peux vous dire. Il y a une ambiance de fou de Dieu.
Vous savez pas le visuel.
C'est vrai que tout à l'heure on avait des filles qui se trémoussaient et le service photo nous a regardé d'un drôle d'air quand a demandé de shooter. Il n'y a pas que ça. Ce week-end aussi à Toulouse, et là j'ai un petit peu une obligation légale si je puis dire de l'annoncer, c'est qu'il y a deux événements en rapport avec la bande dessinée. Il y a le festival Bulle d'ombre qui a lieu à la salle Limérac. C'est, si je me trompe, voilà, c'est rue Xavier Darras. C'est, je m'en suis souvenu, pas parce qu'il porte le même prénom que moi, mais c'est un compositeur toulousain. Avec des dessinateurs, Guillaume Lapère, Rémi Guérin, Lucien Rollin, Lexine, You, Sébastien Ferrand, Ossinguel, Horn, Olivier Daugé, qui est présent aujourd'hui, Marne Guessant, Boris Guilletot, BM, Anne-Catherine Hoth, Frédéric Medrano et Alim Mahmoudi. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site supplementweekend.fr. Vous allez en haut à droite, vous allez dans la partie qui concerne nos chroniques, vous descendez, vous avez le lien, donc c'est le festival Bulle d'ombre. Et le lendemain, demain dimanche, alors c'est en face, vous allez direction du canal et ensuite vous tournez à gauche, puisque c'est à la salle des fêtes à la parc technologique du canal. Il y aura une bourse d'échange de bandes dessinées d'occasion à Ramonville, des bandes dessinées, c'est pas des neufs, c'est de la seconde main et c'est de la collection pure et dure. Donc si vous avez un grenier à vider, ou si vous voulez vous faire des œuvres d'art des bandes dessinées à ses côtés, c'est l'occasion ou jamais, ça va être plutôt intéressant.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as fait le tour, est-ce que tu as fait, tu as vu toutes ces minettes qui se trimballent, c'est un peu court.
Pourquoi tu t'adresses à moi pour ce genre de truc? Je te signale que nous avons repéré à deux hier et nous avons effectivement zioté pas mal de costumes qui s'iraient bien à quelques demoiselles de notre connaissance. Et après, effectivement, par rapport aux autres éditions du TGS normal, hein, pas spin-off, c'est vrai qu'il y a quelques exposants qui reviennent. Donc il y a aussi tout le marché autour du goodies, autour de la Japanimation, les DVD, il y a pas mal de t-shirts pour les geeks et pour les fans de dessins animés. Donc c'est vrai que vous en prenez plein les mirettes, c'est quand même à faire au moins une fois
voilà, si vous êtes de la région, c'est vrai qu'il y a pas, on a de la chance d'avoir quelque chose comme ça à Toulouse, même si ce genre de, oui,
c'est
de ce convention se multiplie.
C'est ce que je disais, il y a 15 ans, on le rêvait, on le fantasmait, voilà. On se disait que c'était infaisable, et maintenant, ben justement, on remercie encore une fois l'équipe du TGS d'avoir organisé ça et de nous avoir laissé faire notre programme en direct. Et l'équipe de Diagora la Bêche qui s'est vraiment mise en quatre pour nous trouver un petit coin pour se mettre en place. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais il y a un concert ce soir.
Oh.
Et il y a deux groupes qui seront, alors c'est plutôt techno et rock si je puis dire. Alors,
c'est vrai que si on parle de concert et de culture japonaise, on pense forcément aux idoles.
Ouais, alors, Xavier, déjà quand j'ai fait l'intro Théâtre No, tout le monde, je suis sûr que les auditeurs ils nous attendaient à ce qu'on fasse. Et qu'on avance un tout petit pas.
Oh
non, pas du tout. Deux groupes qui sont en concert. Red Rice, qui est un groupe d'ailleurs avec un violoniste, hein, si je me trompe, et un percu électronique, et Lamia Cross, qu'on aura normalement tout à l'heure en interview. Vous verrez ça des potes déjà pas mal. Et d'un autre côté, il y a plein de choses, mais je sais qu'il y en a un qui aurait souhaité qu'il y ait quelque chose plus de ce qu'on appelle la J-pop.
Voilà.
Vas-y, je sais, je t'ai piégé là.
Donc, voilà, c'est clair qu'il y a des groupes, c'est des groupes plutôt électro-rock, voilà, sachant que bah, au Japon, il y a des styles qui marchent. Notamment, bah là en ce moment c'est beaucoup d'idol et d'électropop. Et donc voilà, parmi les groupes qui cartonnent, on trouve les groupes électro genre Perfume, Police X. Et on trouve également des groupes idol comme AKB48, Morning Musume ou Beris Kobo.
Et Beris Kobo, qu'est-ce que c'est?
Alors les Beris Kobo, c'est un petit groupe qui s'est monté en 2005, qui sont un peu les cadettes des Morning Musume, qui sont très connus. Et qui sont en train de dépasser les grandes sœurs. Et donc là, elles sont sorties un nouvel album qui est une collection de leurs singles avec quelques nouveaux titres inédits. Et la particularité de leurs singles, c'est qu'elles font un clip pour la face A et aussi un clip pour la face B, qui est pas si courant parce que d'habitude sur les singles, il n'y a qu'un seul clip. Et donc là...
Pour le même morceau ou non?
Non, c'est deux morceaux différents,
d'accord.
C'est un single.
Ah oui, d'accord.
Et il y a un clip pour la face A, un clip pour la face B, ce qui est pas si courant en fait, généralement.
Oui, sauf qu'on fait de la radio. Donc vous étonnez pas si votre poste de radio va se repeindre dans un rose très saturé. Il y a de la vie de diabète sur l'antenne. Et Beris Kobo pour Tomodachi, wa Tomodachi Nanda.
Qui signifie « les amis sont des amis ».
She's
J'avais prévenu que c'était sucré, hein. Effectivement, là, il y a pas de trompette sur la marchandise.
Ah, il faut que je boive de l'eau là.
Désolé du bruit ambiant, hein, on tâtonne un peu là parce qu'on est vraiment il y a du monde et il y a beaucoup de sonos autour.
On est à l'entrée, donc si vous écoutez cette émission alors que vous nous avez croisé sur le salon, c'était nous qui avions le tapis rouge et on était à gauche en entrée.
Ouais, c'est pas évident. On va avoir des invités qui vont arriver tout à l'heure, mais comme je viens de tautologer, ce sera tout à l'heure.
Tautologer.
Oui, enfin voilà quoi. C'est... Non, mais enfin bon.
Allez, fais péter.
On va commencer sorti BD avec le pavillon des hommes.
Ah, ça c'est bien.
Ça c'est une excellente BD. Le pavillon des hommes de Fumi Yoshinaga, le troisième tome, est sorti dans la collection Bikana chez Kana. Pour remettre un petit peu dans l'histoire, ça se passe en fait dans le Japon médiéval, à la fin du 16e, début 17e siècle. Tous les jeunes garçons, pratiquement tous les jeunes garçons meurent. Il en reste en fait même pas un quart, un huitième qui survit. Et en fait, c'est un mal terrible qui menace donc l'archipel japonais. Et les garçons, quand ils passent la puberté, paf, ils passent de vie à trépas et c'est le gros problème. Le Japon se féminise. La maladie en question, c'est la variole du Tengu. Et du coup, avec ce reversement de tendance où les femmes se retrouvent à faire des métiers d'hommes, il y a pas mal de choses qui changent dans la société japonaise. À tel point par exemple que le shogun elle-même est une femme,
le shogun,
et au lieu d'avoir un harem clos de jeunes filles, non pas du tout, ce sont des garçons venus des plus grandes familles qu'elle entretient dans un bâtiment clos de son palais, et c'est donc le fameux pavillon des hommes de l'histoire, et interdiction totale pour les autres femmes d'y aller y mettre un pied, non, là c'est chasse gardée, c'est mes mecs, et on n'y touche pas. La princesse Shiyo se montre une shogun tout à fait impitoyable, à peu près autant que ses ancêtres masculins. Elle décide de profiter de la situation pour empêcher les autres grandes familles nobles d'avoir une descendance afin de consolider son pouvoir. Et par la même occasion, elle termine de verrouiller le Japon, c'est-à-dire c'est le début où on dit non, aucun étranger dans le pays, hors de question, on est un pays autosuffisant, et puis point barre. Ce qui fait que ils cantonnent les Hollandais, qui sont les seuls occidentaux qui ont le droit de poser pied dans l'archipel, les cantonnent à une petite île où ils ont le droit de faire leur comptoir commercial et puis point barre. Comme ça, justement, les Hollandais ne sont pas au courant qu'il y a un manque d'hommes dans le pays et que donc il est en faiblesse stratégique et militaire. L'Uchronie est assez intéressante. L'Uchronie, c'est une histoire parallèle où on change un événement de l'histoire qui peut être bénin ou qui peut être majeur. Et en fait, on spécule à partir de là. C'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est qu'on est quand même... C'est une fiction. On est dans des mœurs qui sont extrêmement codifiées, dans une époque qui est extrêmement policée. C'est-à-dire que la culture japonaise est très précise sur énormément de points. Et d'un autre côté, on a des bouleversements politiques, puisque donc on se retrouve avec des samouraïs qui sont des hommes et on fait attention à ne pas les blesser. Et on a justement tous les postes de pouvoir qui sont tenus principalement par des femmes, puisque les hommes ne sont pratiquement plus là. Et les hommes sont vus comme une valeur de richesse. On a un retournement total en fait, où les hommes sont devenus des choses précieuses à conserver, pieusement, etc. Mais oui, mais Mais il faut qu'ils aillent faire les cons, il faut qu'ils aillent se battre au sabre et tout ça, ils veulent ça, exprimer leur, leur masculinité. Il y en a d'autres qui disent, oh finalement c'est tout aussi viril de faire des concours de kimono à celui qui aura le kimono le plus cher et tout le reste. C'est vraiment bien foutu, c'est servi par un excellent dessin de Fumi Yoshinaga. C'est dans la collection Bikana, Shikana, et donc le troisième tome est sorti depuis environ un mois, et c'est vraiment une tuerie. Pour moi personnellement, c'est quelque chose qui est d'un très très haut niveau. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté.
Mais, pendant que nos invités s'installent, ben, moi je dirais juste que en voyant la BD, je dis allez, je vais regarder ça juste dans les grandes lignes pour voir ce que ça donne, et je m'attendais à du yaoi avec un peu cucu la praline, et ben c'est pas du tout ça. C'est il y a de la violence verbale, il y a tout dedans. Les mecs se font des concours de kimono certes, mais aussi c'est pour savoir qui c'est qui va prendre le pouvoir par rapport aux autres hommes. Il y a des manipulations, c'est vraiment pas rose du tout, et c'est même parfois assez sombre, et la cruauté qui pousse le shogun justement à capturer les hommes pour les mettre dans le pavillon, et ben franchement tu rigoles pas tout le temps, mais je trouve que c'est une excellente série.
En tout cas, on vous la recommande chaudement. Le Pavillon des Hommes, le troisième tome donc, qui est sorti dans la collection Big Kana chez Kana. Et on vous en a déjà parlé en long, en large, en travers. Je crois qu'il y a une animation qui existe, mais ça reste à voir. On a nos invités qui sont en train de s'installer et j'espère qu'ils sont bien placés. Bonjour.
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 Et désolé, il y a beaucoup de bruit, donc ça va pas être évident. J'espère que vous m'entendez correctement.
Nous vous entendons très bien, nous faisons confiance. Merci.
Donc, je vous prie de vous présenter, puisque j'ai pas de nom, ce monsieur. Voilà.
Je suis Charles-Louis Oriou, et je pratique le kyudo, c'est-à-dire le tir à l'arc traditionnel japonais, dans la pure tradition des arts martiaux japonais.
Je suis Laurence Oriou. Et je pratique également le kyudo depuis 21 ans maintenant, et j'ai pratiqué grâce à Charles-Louis qui a été longtemps mon professeur, et je continue à pratiquer, à enseigner en Europe et au Japon.
D'accord. Et donc Solarus qu'on a présenté tout à l'heure, qui est votre élève peut-être le moins digne, je suppose. On ne va pas demander les notes. Le kyudo, ce qui est intéressant, c'est que les arts martiaux japonais sont arrivés en France à la fin du 19e, début du 20e siècle, dans la décennie 1900, avec le judo en lui-même.
À l'époque, le jujitsu, oui.
Comment tous ces arts martiaux sont arrivés avec une spécificité culturelle qui sont quand même fortement prononcées?
Historiquement, les arts de combat occidentaux se sont toujours intéressés à toutes les formes de lutte, boxe anglaise, etc. Et quand les échanges sont vraiment ouverts avec le Japon a intégré le jujitsu, qui est devenu ensuite l'aïkido. Et pendant effectivement toute la première moitié du 20e siècle, ça a été surtout à partir de ces arts martiaux-là. Et dans les années 60, il y a eu une partie des jeunes qui allaient vers Katmandou et l'autre allait vers le Japon. Et sont revenus avec tous nos aînés qui sont revenus du Japon avec l'école de karaté, l'école de aïkido bien sûr. Et ça s'est développé comme ça dans un premier temps.
Alors quelle est la différence principale du kyudo en lui-même par rapport au tir à l'arc tel qu'on le connaît en Europe? Est-ce que c'est juste parce qu'il faut prononcer les choses de manière différente et l'arc est d'une taille différente, ou parce qu'il y a vraiment un côté culturel qu'il faut assimiler pour le maîtriser?
En gros, est-ce que c'est Robin des Bois en kimono en fait?
Alors, pourquoi pas Robin des Bois, si ce n'est qu'on n'est pas en train de prendre de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. On essaie de pratiquer tous ensemble, à tout niveau, dans toutes conditions. Le kyudo, c'est un arc, une flèche, une cible et un archer, comme dans l'archerie occidentale. La différence, c'est le respect d'un rituel, le souci d'une concentration extrême, d'une humilité, un travail d'élégance, qui n'est pas forcément toujours retrouvé dans l'archerie occidentale. Et de la même manière que vous connaissez peut-être les katas de karaté, où l'idéal de performance repose non pas sur un résultat objectif, battre l'autre, mais sur la réalisation d'un geste parfait, et bien le kyudo, bien qu'il y ait des tournois aussi, donc un résultat objectif, le kyudo, c'est la réalisation d'un geste parfait dans une discipline de rigueur et d'élégance, de beauté.
Est-ce que vous diriez que ça relève plus de l'art martial, d'un, plus de la discipline plutôt que du tir à l'arc? Ou est-ce que c'est kiff-kiff 50-50?
Traditionnellement, on dit que le Kyudo fait partie des, est le plus ancien art martial du Japon, avant même l'utilisation du katana et du sabre. Parce qu'au départ, bien sûr, les Japonais avaient imité les arcs mongols avec les bambous du Japon et avaient fabriqué donc ce grand arc nu en lamellé-collé bambou. Et c'était devenu donc un art martial. Et puis pendant une grande période, les Japonais n'ont pas eu à combattre et ils ont gardé le Kyudo comme art de développement de soi, de garder l'art de vivre et de mourir du Bushido. C'était vraiment une technique d'entraînement pour garder l'esprit samouraï pendant cette grande période de paix où les samouraïs n'avaient pas à combattre. Après la Deuxième Guerre mondiale, les arts martiaux ont été interdits et rapidement autorisés.
Alors avant de parler justement de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, c'est là où vous êtes intéressant, parce que vous avez parlé donc justement des samouraïs, c'est une caste en elle-même. Ouais. Là où le tir à l'arc était quand même quelque chose de beaucoup plus populaire en Europe, puisqu'on utilisait les serres et tout ça, ça veut dire justement que cette codification elle vient plus justement d'un milieu qui est beaucoup plus noble que le...
C'est-à-dire qu'il y avait deux grands types de guerriers. Il y avait le samouraï noble qui avait des responsabilités aussi administratives. Et puis il y avait le fantassin qui lui aussi devait tirer à l'arc et qui conservait la pratique du tir à l'arc pour la chasse et puis pour se nourrir et puis pour combattre. Donc il y avait deux façons d'aborder. Et les fantassins ont rapidement abandonné le Kyudo parce que... les arquebuses sont arrivés et les armes à feu se développant, le tir à l'arc n'était plus efficace. Mmh. Mais ça a été conservé comme une discipline de développement personnel. Et c'est comme ça que c'est ce qui intéresse les Occidentaux. C'est justement l'occasion, comme disait Laurence, de pratiquer un geste le plus juste, avec un sentiment juste, la beauté, la vérité, la sincérité, la bonté. Et travailler dans cet esprit permet de développer en soi des qualités de bonté, de beauté, d'harmonie. Et voilà, c'est ce travail, c'est un support.
Est-ce que vous et les pratiquants de Kyudo français sont venus au Kyudo du tir à l'arc occidental et ensuite aller au Kyudo, ou est-ce que vous étiez intéressé d'abord par les cultures japonaises et par l'art martial et par extension ensuite vers le Kyudo?
Alors cette question est très très intéressante. On se rend compte que la majorité des personnes qui viennent pratiquer le Kyudo en fait ne viennent ni du tir à l'arc ni des arts martiaux. C'est très intéressant parce que ce sont des personnes qui ne s'imaginaient pas pouvoir faire une activité dite physique sportive. Et le Kyudo n'est pas un sport, c'est une discipline, mais ça met en jeu le corps. Donc ça leur permet, alors qu'ils ne s'imaginaient pas pouvoir bouger leur corps, de le bouger quand même, tout en respectant une éthique, des valeurs et une relation à une culture de beauté, une culture de raffinement. Donc c'est très complet finalement parce que c'est à la fois du corps, à la fois de l'esprit, du cœur, du sentiment. Et l'attirance vers une culture qui respecte le raffinement et la beauté, comme je le disais tout à l'heure.
Et est-ce que cette discipline qui requiert pas mal de d'abnégation et de prendre un peu sur soi, comme les Français ont un tempérament latin, est-ce que vous rencontrez difficultés par rapport à des élèves? Je dis pas ça en me tournant vers Solarus par exemple. Hein.
Alors, c'est très intéressant parce que, justement, les Français... Vous savez qu'on est toujours un peu attiré par ce qui est opposé à nous. Justement, les contraires s'attirent. Et les Français adorent le Kyudo. On est la deuxième nation en Europe en effectif et on est la première en niveau.
Ah oui, quand même.
Voilà. Donc, ça signifie quand même que les Français aiment justement être un peu cadrés dans une rigueur, dans une discipline. Et pour ce qui concerne la transmission maître à élève, il est passionnant de constater que souvent les élèves les plus rebelles deviennent les meilleurs pratiquants. Donc, longue vie.
Allez, ton témoignage, Solarus, alors qu'est-ce que t'en es où? Ça fait combien de temps que tu es en pratique? Est-ce que ça a été dur de s'y mettre?
Profite-en, tu es en train de couper la parole à ton maître.
Moi, j'ai commencé le Kyudo en 2005. Je suis venu de par les arts martiaux, l'aïkido, et j'avais envie de découvrir cette discipline qui était très mystérieuse au début, puisque c'est quand même quelque chose de très très tranquille et qui demande beaucoup de concentration. Et pour moi, demander beaucoup de concentration, c'était très difficile au début. Et justement, c'est un excellent exercice. Et donc voilà, c'est un excellent exercice pour la concentration et la tranquillité, même si on ne l'est pas forcément à la base.
Oui, non. Pour présenter les personnes, Laurence Oriou, qui est aussi ma femme, est la première non-japonaise à avoir obtenu le titre de Kyoshi. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois niveaux d'enseignants. Renshi, c'est le titre que j'ai. Et au-dessus de Renshi, il y a Kyoshi. Et Laurence
a dépassé le maître.
Elle a dépassé le maître. Enfin, l'enseignant. Je ne sais pas si je suis un maître, en tous les cas, un enseignant. Donc, Laurence est la première non-japonaise à avoir acquis ce titre. Elle a obtenu ça avec un passage de grade au Japon. Et donc, nous sommes très fiers en France. Et en France, comme disait Laurence, la Fédération française, la FFKT, la Fédération de Kyudo traditionnelle de la France, réunit un grand nombre de hauts gradés.
Alors justement, Laurence, est-ce que tu peux donner ton témoignage? Comment tu as passé? Est-ce qu'il y avait une cérémonie? De quelle ampleur? À quel endroit? Fais-nous rêver. Des beaux paysages, avec le petit matin, le soleil qui rougeoie, les pétales qui volettent.
Alors c'est un peu plus prosaïque que ça en réalité, parce que c'est beaucoup de stress et beaucoup de gaspillage d'énergie à se faire peur. Mais ce que je voulais dire avant ça, c'est que toujours dans l'idée de l'amélioration que peut apporter le Kyudo dans la vie quotidienne et dans les relations humaines, il faut savoir que même si quelquefois l'élève dépasse le maître initial reste le senpai, c'est-à-dire qu'il reste le maître éternel, je dirais. Il a précédé l'élève dans la voie.
C'est pas qu'une question de niveau, c'est une question de respect avant tout, quoi.
Absolument, de respect, de politesse, d'étiquette et de prise en compte de ce que c'est que le travail des autres.
Par exemple, j'ai pratiqué le Kyudo il y a 25 ans, j'ai commencé le Kyudo il y a 25 ans, et j'ai commencé le Kyudo avec quelqu'un qui travaille sur Toulouse, justement, Bernard Bleyer, et donc je le remercie de m'avoir initié au Kyudo. Après, nos histoires se sont séparées, mais je suis toujours redevable de Bernard de m'avoir initié au Kyudo. Donc même si ensuite on n'a plus l'occasion de se rencontrer, c'est toujours le respect des anciens et de ceux qui nous ont précédés qui nous permet de progresser. Et dans cet esprit, c'est important.
Voilà. Donc en l'occurrence, je reviens à cet examen. Cet examen, c'est avec l'accord de mon professeur, Charles Louis, que je l'ai passé. Et comme je disais, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Et puis finalement, l'entrée dans un état un peu intermédiaire entre l'oubli de soi, le don de son tir aux autres, l'instant présent, quelque chose d'ineffable, mais qui restera jamais dans mon cœur.
Mais ce qu'il faut quand même expliquer aux gens qui ne connaissent pas du tout le Kyudo, il s'agit de donc un grand arc que l'on pratique avec un rituel par groupe de 5, et on n'a que deux flèches à tirer. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. On a deux flèches à tirer. La cible, c'est une cible de 36 cm qui est à 28 mètres, ce qui fait qu'elle nous paraît très petite lorsqu'on est sur le point. Oui, et l'arc n'est absolument pas avec des équilibreurs, des viseurs, ni quoi que ce soit. C'est vraiment un arc nu, qui d'ailleurs est en bambou, généralement, donc il bouge aussi, les flèches sont en bambou, c'est des matériaux.
Il y a le nœud du bois en lui-même.
Exactement.
Les deux arcs, chaque arc a sa personnalité.
Chacun a sa personnalité, fabriqué par des formes différentes. Donc on n'a que deux flèches à tirer. Et tout est rassemblé paroxystique dans ces deux flèches. La première, alors quand on réussit la première, on a l'angoisse de réussir la deuxième. Et quand on rate la première, il faut absolument qu'on réussisse la deuxième. Mais ça crée un état de concentration extrême. Et quand on regarde les pratiquants de Kyudo, on se demande pourquoi ils pratiquent. Mais ça n'a de sens que lorsqu'ils voient un examen ou un tournoi, et où là, cette fois-ci, c'est une flèche et puis c'est tout. C'est pas une question de quantité.
Alors, une question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est cette distance qui doit être assez importante. Je suppose que ça ne se pratique pas en centre-ville. Et dans ce cas-là, où sont les clubs, au moins sur la région de Toulouse?
Le club de la FFKT sur Toulouse, c'est le club de Vieille Toulouse. Donc c'est un petit village du côté de Ramonville. Et donc on donne un cours le lundi soir à 19h30. Et un cours le vendredi soir à la même heure, à 8h30, pardon, le vendredi, Donc à la maison des associations de Vieille Toulouse. Voilà. Et vous êtes tous invités à venir faire un cours d'essai si vous êtes dans les environs de Toulouse.
Et tout à l'heure, donc, vous allez faire une démonstration, je suppose, ça aura lieu sur le parking, par beau temps.
Non, je crois que ça va être à l'intérieur.
Non, pas du tout, c'est en intérieur à côté de la scène, puisque également on peut tirer sur des rouleaux de paille, des makiwara, à une distance de 2 mètres, c'est le tir d'entraînement.
D'accord, ok. Bah, en tout cas, on vous remercie beaucoup et
on
souhaite vous voir tout à l'heure. Ce sera
avec plaisir.
Alors, juste une question, quand il y a une scène de ménage, on planque les arcs?
Il n'y a pas eu de scène de ménage depuis 25 ans, alors...
Donc il y a un sacré respect.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Après le tir à l'arc japonais traditionnel, on va changer complètement d'ambiance et on est en train de changer de plateau. revient. Donc on est toujours en direct de la Belge à Diagora pour le TGS au Hanami dans le suppléant week-end. Vous écoutez Radio FM 89.1 MHz et on a un plateau qui est complètement différent. Je peux vous dire que du sport, là, il est en train de se dire mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu dans le conducteur. Mais t'as le câble, je n'y peux rien, t'as le câble. Tu ne connais pas, tu peux pas tester. Et on a, puisque en fait on a avec nous ben, Alex Pilot qu'on avait déjà reçu en tant que directeur des programmes en novembre dernier, qu'on avait eu donc pour le TGS, voilà, et dont on a passé l'interview en décembre dernier. Bonjour Alex.
Hello. J'admire parce que tu es en train de mixer et tu présentes en même temps.
Et encore, je suis pas en train de changer les CD, tu vois, et de réparer les deux PC de stream en même temps.
D'accord, c'est déjà bien.
Oui, merci. Et en fait, c'est la personne que l'on reçoit, et ben c'est ta présentatrice, l'égérie, si je puis dire, de cette chaîne de fous furieux qu'on regarde un peu trop. Ça s'appelle No Life. Bonjour Suzuka.
Bonjour, salut tout le monde, c'est Suzuka.
Très enchanté de te recevoir. Alors, Suzuka, tu fais une émission donc, oui. Qui s'appelle Tokyo Café.
Exact.
Rien à voir avec un truc qui est à Toulouse et qui a pompé le nom après, mais avec qui je crois que vous êtes en bon terme.
Ouais, en fait rien à voir, mais quand ils sont, comment dire, ils ont nommé.
Ils nous ont gentiment demandé l'autorisation, alors on leur a gentiment dit oui.
D'accord, tu sais Alex, tu peux prendre un autre micro pendant que j'ai le mien qui se barre.
Désolé, on est amateur de radio, on est pro pour la télé. Mais...
oui, c'est clair, c'est pas évident hein, en plus. Tokyo Café, en fait, ouais. C'est une petite capsule d'apprentissage survitaminé, si je puis dire, de la culture japonaise.
C'est un peu trop poétique pour moi, j'ai pas très bien compris. Alex, toi dit.
So
yes, oui, exactement, c'est ça.
Moi je vous préviens, on va avoir une très grosse difficulté pour nos amis auditeurs qui nous écoutent à la radio, sur la diffusion FM, en stream sur le net ou sur le podcast après en différé. Suzuka a un pouvoir spécial que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'il y a des petites lettres roses qui se dandinent. Et attention, du sport, dis un mot pour voir.
Oui, hein? Avec le micro ouvert.
Et voilà, et du coup tu es sous-titré toi aussi, c'est génial. Et ça...
Ouais.
Et voilà, et c'est quelque chose qu'on peut pas faire, tu vois, en radio et qu'on va essayer d'expliquer. Oui. Alors, c'est une émission qui existe depuis 2 ans et demi. De quoi c'est parti? Est-ce qu'en fait c'est un projet qui est parti en même temps que la chaîne ou que tu avais envie de faire auparavant? Ouais.
En fait, l'époque, est-ce que vous connaissez le Pocket Chami? En fait, avant qu'on crée No Life, on travaillait dans un boîte qui s'appelle voilà. Et moi et Alexandre, on a fait un peu le, on a envie de faire quelque chose, l'émission ressemble aux émissions japonaises, n'est-ce pas Alex?
Une émission qui ressemble aux émissions japonaises.
Voilà.
Je m'entends pas.
Oui.
C'est pour ça qu'il y a du titrage à fond, quoi.
D'accord. T'es sûr que mon micro est...
Oui. Non mais c'est assez difficile de tout mixer en même temps, voilà.
Ouais. Donc. Quand même, j'ai fait audition, comme on dit, casting. Et j'ai réussi. Et je suis devenue une animatrice de l'émission qui s'appelle Tokyo Pop.
D'accord.
Tu peux expliquer le Tokyo Pop, Alex?
Oui, Tokyo Pop, c'était une rubrique d'une émission sur Internet. Je crois que ça passait à l'époque sur Jeux Actu. Si je dis pas de bêtises, au tout début de Jeux Actu. Et ensuite, quand on a commencé No Life... on avait envie de développer le concept, donc on a changé un petit peu et on a repris les bases de Tokyo Pop et on a changé pas mal de choses et c'est devenu Tokyo Café.
Ok. Oui. Dans Tokyo Café, il y a plein de termes, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Il y a aussi bien de la culture en général, de la cuisine, de la musique, oui. De l'art contemporain. Quel est le thème que tu préfères faire connaître?
Est-ce que Alexandre, j'ai le droit de parler honnêtement tout?
Aïe.
Non. Fais-nous peur.
Attends, on met les bannières. Exclu.
En fait, Tokyo Café, on n'a pas vraiment le thème. Ouais. C'est relation qui est un peu le rapport japonais, comme on dit Alex.
Il faut qu'il y ait une base en rapport avec le Japon. Ouais, obligatoirement.
Voilà. Et du film, chaque semaine, cette émission. Donc parfois, on n'a pas d'idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Oh là, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'événement, on se passe. Alors, c'est le cas, tu dois, comment dire, je n'ai pas vraiment trouvé le thème. La musique, la musicienne qui t'a la décrit aussi. Ce que je voulais faire vraiment, c'est vraiment comment dire, présenter quelque chose du Japon. Existe au Japon. Je vais aller au Japon chaque semaine pour faire tournage et tout, mais malheureusement, je dois rester à Paris. Donc, Paris. Mais
la question, c'était ton thème préféré.
Oui, voilà. Donc,
on va y arriver.
ごめんね。だから、本当は日本のことだけしかやりたくない。
En fait, voilà. À la base, on aimerait vraiment faire que des Tokyo Café au Japon. Mais c'est enfin, super cher d'aller au Japon chaque semaine.
Pas possible.
On en fait une grande partie au Japon. Mais on peut pas toujours. Je m'approche un peu du micro. Et comme on peut pas aller au Japon chaque semaine, on en tourne aussi en France avec des événements ou des thèmes qui ont rapport avec le Japon.
Et vous débrouillez aussi pour retourner 4 ou 5 émissions en même temps quand vous se tournez au Japon.
Ouais, j'ai même 10-15 ans.
D'accord.
Et puis
c'est ton thème préféré ?
Ouais. En fait, ça dépend des résultats. Ouais.
Ouais.
Parfois. En fait, je n'ai pas un thème qui me plaît spécialement.
Elle n'a pas un thème en particulier qu'elle préfère aux autres.
Mais quand je vois le résultat,
après, quand elle voit le résultat, parfois elle se dit ah tiens, mais c'est pas mal ça ce qu'on a fait, alors que c'était pas forcément un thème qui l'aurait intéressé au départ.
C'est difficile. Voilà.
Ichiban qui le thème.
Ah oui. Ouais, en fait, j'aime beaucoup d'alcool, donc j'aime bien de présenter le saké, tout, mais malheureusement, la télé, il y a des, comment dire, des règles.
Il y a des lois.
Je dois dire, faites attention, pas trop boire, c'est pas très bien pour
la santé. Un petit défilant en bas avec les mentions légales. Hein.
Voilà.
On est plus à cette place, mais c'est vrai que bon, il n'y a pas du tout les mêmes contraintes en télévision française, en télévision japonaise. Est-ce que pour toi c'est vraiment un frein ou finalement non, on le fait différemment.
Nadate.
Est-ce que
ouais.
Olitsune et Loïlo de Limitia,
les masques. Oui. Malheureusement, ouais. Par exemple, quand je prends quelque chose, tu ne dois pas montrer le marque.
Ah, ça vient de tomber, hein. Tu le peux depuis 2-3 semaines.
Dans les fictions, pas dans les.
Non, on n'a plus d'obligation de flouter maintenant. Il ne faut pas que ça soit volontaire, entre guillemets. Voilà.
Ah, d'accord, mais c'est une bonne nouvelle.
C'est à vérifier, hein, tout
le tracking au moins.
C'est à vérifier, je ne garantis rien.
Bon, c'est sûr que ce serait bien pratique.
Le plus sévère, ce n'est pas le règle français. Le plus sévère, c'est Alexandre, le réalisateur. Oui, le faire tôt que café.
Ouais. Je vous laisse imaginer qu'il y a des choses voilà, qui sont non dites sur le plateau. Alors il y a beaucoup de fans qui sont très enthousiastes. Est-ce que tu penses qu'ils sont plus enthousiastes de Suzuka ou de l'émission elle-même?
L'émission. Je pense que l'émission.
Ah là, c'est la modestie japonaise.
Non, mais vraiment, l'émission. Tu penses que si je fais le. Par exemple, si je fais l'autoplay, ça marchera pas.
Autoplay, c'est l'émission musicale hein, qui présente les nouveautés musicales japonaises en France.
Ça c'est Auto.
Vidéo.
Ouais.
Ah mince, je me trompe avec Auto, voilà.
Ouais. En fait, quand je fais quelque chose dans le studio, comment dire, studio, ok. Moi, mon style, peut-être, c'est très bien pour le okay, okay.
Les tournages extérieurs.
Ouais.
D'accord.
Ça va.
Et est-ce que le fait de faire des émissions en France avec les fans qui sont autour et tout, par rapport à des émissions au Japon où vous avez plus un certain anonymat, j'imagine, est-ce que ça change beaucoup de choses dans la fabrication de l'émission ?
Oui, au Japon, ils sont froids. Ils sont vraiment froids.
Oh, incroyable. C'est pas évident à aborder. Hein.
Comment dire, Cathy, t'as vu de l'intérieur ?
Quand on fait un micro-trottoir.
Ils sont méchants, japonais. Ils sont méchants.
Je ne réponds pas gentiment.
Ouais, pour prendre une personne, tu dois faire centaines.
Est-ce que tu es en train de dire que tu es l'exception culturelle française quand tu vas aborder les gens dans la rue en disant c'est pour une télé française?
Malheureusement, en physique, l'air vraiment japonais, ça marche pas.
Hein. Bah, souvent, les gens pensent qu'ils vont passer la télé japonaise quand on va les interviewer. Ils nous disent ah, c'est pour le Japon. Parce que bah, tout le monde connaît pas hein, mon live, bien sûr. Donc, quand ils voient Suzuka arriver avec le micro, ils ont l'impression qu'ils vont passer à la télé japonaise souvent.
Oui. Maintenant que tu vois un petit peu ton public et que tu vois bien justement comment les Français perçoivent la culture japonaise, est-ce que pour toi, la chose que rate le mieux les Français, c'est la cérémonie du thé ou les takoyaki?
Takoyaki.
Takoyaki.
Takoyaki. Ouais.
D'accord.
On avait laissé la dernière fois dans ton interview Alex No Life dans une situation particulière. Est-ce qu'il y a eu des améliorations depuis par rapport aux abonnements, par rapport aux...
Non, on est toujours sur le fil du rasoir. Chaque mois on ne sait pas si on sera là le mois prochain. Donc psychologiquement c'est assez dur, même si on commence à s'endurcir, on commence à s'habituer à la précarité hein, tout simplement. Mais ouais, c'est toujours difficile quand on doit commencer à penser à long terme. Par exemple, je vais travailler sur un documentaire, mais il va passer que dans 3 mois. Mais est-ce qu'on sera là dans 3 mois? Alors il faut quand même garder la motivation de faire quelque chose en se disant peut-être que personne ne verra jamais. Et c'est ça tout le temps. C'est fatigant de ne pas pouvoir se projeter dans le futur et d'être toujours en stress de savoir si on continue ou pas. Mais quand même, on a réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui. Donc on se dit quand même, ce serait vraiment malheureux si on n'arrive pas à la rentrée prochaine, quoi. En fait, le soutien des gens nous donne courage, mais on est toujours en méga stress par rapport au financement de la chaîne.
Est-ce que justement cela te fait mieux vivre certaines citations latines comme Carpe Diem ?
Ben non,
vis l'instant présent.
Parce que si je me disais ça, ben je travaillerais plus à No Life et j'irais faire la fête tous les soirs en me disant ouais, à quoi bon bosser là-dessus, quoi. Non, pas du tout. Au contraire, il faut, malgré le fait de tout en se disant qu'on n'est pas sûr d'être là le mois suivant, continuer à bosser comme si... Oui, Suzuka ?
Continue ?
Oui, mais du coup, j'ai perdu le fil.
Oh.
Je disais quoi ?
Tu disais que ça marche comment tu allais bosser.
Mais non, c'est pas carpe diem du tout, quoi. Mmh. Il faut penser au futur, sur le long terme, à ce qu'on va faire dans 2 mois, dans 3 mois, tout en ayant le stress de se dire on sera peut-être pas là. Voilà. En gros, c'est ça le truc.
Donc ce qui est intéressant, c'est que là on parlait donc de cette émission qui s'appelle Tokyo Café, et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément les chaînes ADSL ou qui ne sont pas là au moment où c'est diffusé, ils peuvent le revoir en différé sur votre site internet.
Oui. Absolument.
Alors attention, c'est un piège, parce que si tu le cites, tu sais quelle est la punition.
Non, je sais pas.
C'est qu'il faut que tu cites 2 autres marques.
Ah bon?
Alors, le service équivalent. Donc vas-y, je te...
Donc il faut aller sur le site de No Life Online. Gamecube du Actu.
voilà, c'est fait. Donc nolife-tv.com pour ensuite y abonner.
En gros, tu tapes No Life dans Google et c'est la première réponse. Hein. Donc c'est facile. No Life, j'ai de la chance dans Google. Yahoo.
Non, mais je t'expliquerai ce que c'est que le placement. Même.
Et donc, effectivement, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour survivre, c'est de proposer un service aux spectateurs de catch-up, c'est-à-dire de visionnage des émissions sur notre service internet, sur notre site internet. Alors l'idée, c'est que c'est les gens, en s'abonnant sur ce service, financent la chaîne elle-même, qui reste gratuite, elle. Alors c'est un peu le concept des shareware, hein, des logiciels qu'on utilise gratuitement, et si on les utilise beaucoup, on se dit quand même, j'utilise tout le temps ce logiciel, je pourrais quand même donner $5 au créateur. C'est ça les shareware. Ben c'est une chaîne shareware. Si on regarde nos lives toute la journée, tout le temps, au bout d'un moment, tu te dis quand même, je vais bien leur filer 1 euro ou 2, sinon ça va s'arrêter et je serai malheureux. Voilà.
Concept. Est-ce que quand tu fais Tokyo Café, tu te dis j'aimerais faire un sujet plus long des fois, soit le faire sur un quart d'heure, soit carrément sur 1 heure?
Je voulais faire plus long, on fait 2 parties. C'est la semaine prochaine, je fais comme ça. Quand c'est trop long, peut-être je fatigue au spectateur, j'imagine.
Bah, et puis tu fatigues le monteur aussi. Parce que c'est beaucoup de travail, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une émission de 5 minutes, c'est...
Intégralement sous-titré, c'est 200, même les Français.
200 sous-titres, des sous-titres avec des couleurs, et il faut faire ça chaque semaine. Enfin, c'est un... Il y a un volume de sous-titres beaucoup plus important, par exemple dans une série où il y a des blancs, où il y a des moments où ça parle pas. Dans Tokyo Café, non, c'est tout le temps. Parfois il y a plusieurs sous-titres en même temps, quand il y a plusieurs personnes qui se parlent.
En fait, c'est un peu faute de toi, tu sais.
Oui.
Quand je parle rien, comme ça, je montre le truc, Alexandre, tu me dis oh, parle, Suzuka,
faut pas
arrêter.
Il faut donner du rythme.
Ouais, donc quand je rencontre un spectateur, oh, finalement, Suzuka, elle ne parle pas aussi beaucoup que Tokyo Café.
Ah, bah oui, c'est ça la magie de.
Alors, justement. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vrai que vous avez commencé à sous-titrer les Français qui parlent en français uniquement parce que des fois on pense pas à relever les yeux du sous-titre?
Ah non,
c'était vraiment pour le délire.
Bah, la télé japonaise est très redondante. Si vous regardez la télé japonaise, les Japonais sont sous-titrés en japonais. Oui. Tout le temps. dans toutes les émissions, parce que la télé japonaise est faite pour être vue sur son téléphone portable dans le train, sur la petite télé quand on est au restaurant en train de manger un ramen, et elle est faite comme ça. Et moi je trouve que cette redondance avec les sous-titres, c'est-à-dire d'entendre et de voir le texte écrit, souvent a un effet assez drôle. Et puis on peut mettre en valeur certains mots. Par exemple, quelqu'un qui dit « Ah, je suis trop content », il est dit. S'il dit le mot « content » très fort, on va mettre le mot un peu plus grand. Et c'est juste le concept de Tokyo Café, c'était de rendre hommage à la télé japonaise qu'on aime bien. Donc pour nous, c'était évident que même les Français devaient être sous-titrés, quoi qu'il arrive, et même Suzuka quand elle parle en français.
Alors s'il y a une télé japonaise que tu aimes bien,
oui,
quelle est la télé japonaise que tu n'aimes pas bien?
Ah, ça c'est dur à dire. Oh là. Qu'est-ce que j'aime pas? En fait, ce n'est pas la émission. Parfois, il y a la cette télé, non? Il y a la cette.
Pas connu.
Mise en scène.
Ah ouais, les voilà. Reportages un peu bidonnés.
Voilà. Ouais. Ça.
Tu veux dire qu'ils ont TF1 là-bas?
TF1, c'est des anges à côté.
Oui, je confirme.
Pour des raisons d'emploi du temps, est-ce qu'il est déjà arrivé à Alexandre de ne pas filmer tes émissions? Et si c'est jamais arrivé, est-ce que tu serais prête à faire l'émission si t'étais pas filmée par Alex?
Oui, je suis prête.
D'accord. Et c'est déjà arrivé?
Non.
Non.
Un petit morceau, oui. Avec moi, je faisais avec Lorine.
Ouais.
Mais l'effet était pas, comment dire, c'était un peu différent. Mais je préférais avec Alexandre.
Donc alors, vous êtes sur le TGS ou un ami, donc à Toulouse. Je suppose que vous allez faire autre chose que dédicacer des t-shirts et prendre des abonnements.
On va tourner Tokyo Café.
Yeah.
Au secours. Alors quel est le sujet? Ou c'est une surprise?
Le sujet c'est le festival, voilà. Donc ouais. on va se balader dans le festival et puis Tokyo Café c'est assez, ça se fait un peu tout seul, hein. C'est-à-dire que Suzuka se déplace, découvre des choses et puis on voit comment ça interagit avec les gens, est-ce qu'il se passe des trucs rigolos. C'est pas écrit, il n'y a pas un script avec d'abord on va à la stand là, ce stand là ensuite, et on voit un peu ce que ça donne. Et après évidemment il y a un énorme travail de montage. Hein. Pour un Tokyo Café de 5 minutes, souvent il y a 1h30 de tournage. Et vous imaginez bien, donc on garde évidemment le meilleur, le plus intéressant dans les 5 minutes qui restent à la fin.
Au fil des numéros de Tokyo Café, est-ce qu'il vous faut de moins en moins d'heures de rush justement pour arriver à 5 minutes de montage ou
Ça dépend complètement de l'événement. S'il y a un événement qui dure toute la journée, par exemple. Je sais qu'un événement comme le TGS aujourd'hui, ça va faire 1h30, 2h de cassette, quoi, c'est sûr. Par contre, si c'est par exemple, un Tokyo Café récent, Suzuka avait montré une espèce de petite maquette qu'on peut faire soi-même avec un petit chien.
De chien et de chien, voilà. Oui, c'est ça, oui.
Donc ça a pris par contre, ça a pris 20 minutes à faire. Parce que c'était en temps réel, le temps de fabriquer le truc, ça dépend complètement de l'événement, quoi.
Est-ce qu'il y a des Japonais qui regardent nos lives, et est-ce qu'il y en a qui regardent ton émission, et est-ce que tu t'es pris des critiques?
Oui, en fait les Japonais parfois mon émission est, comment tu peux dire, YouTube, Dailymotion.
Ouais, son émission elle est surtout diffusée sur Nico Nico Doga.
Ouais.
C'est le YouTube japonais.
Méchants japonais sont méchants seulement.
Ouais, je sais pas si vous voyez comment c'est Nico Nico Doga, mais il y a des commentaires qui défilent en temps réel. C'est-à-dire qu'on voit ce que les gens mettent comme commentaires sur la vidéo qui défile.
Il y a des commentaires avec anonyme.
Anonyme, ouais.
Anonyme. Donc vraiment, ils sont.
Donc voilà, c'est qui cette grosse conne, voilà. En gros, c'est que ça.
Grosse. Ouais. Au début, ça m'a fait rire. Il est trop vieux, il est nul, le bouton.
Vous savez comment c'est Internet, hein. C'est le royaume de l'insulte, quoi. Donc voilà.
Mais bon, ça m'amuse.
Mais c'est pas exactement ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est exactement pareil dans l'autre sens. Quand en France, on met une vidéo d'un Français qui fait une émission au Japon, avec la réalisation japonaise et tout ça, ça va terminer, c'est ça?
C'est qu'il est 13h, c'est tout.
D'accord. Donc, il y a des Français qui travaillent au Japon pour des émissions pour apprendre le français aux Japonais. Mmh. Bah, eux, quand ils passent sur YouTube, c'est l'inverse. Mmh. C'est les Français qui disent « Ah, qu'il est con, il a l'air trop bête », parce que c'est mis en scène de manière japonaise, et c'est des codes qu'on comprend pas. Et là, c'est l'inverse. Ouais. C'est une émission française faite pour des Français, et quand les Japonais la voient, pour eux, c'est ridicule, quoi.
En plus, les Japonais ne comprennent pas que je travaille chez No Life, donc je suis, même temps, je ne suis pas le vrai, comment dire, professionnel.
Ils ne comprennent pas que, c'est pas une présentatrice qui a été choisie comme ça sur casting ou quoi. Elle travaille au No Life parce qu'elle s'occupe de toutes les relations au Japon, et comme on est une équipe limitée, forcément, on travaille aussi avec Suzuka pour Tokyo Café. Ouais. Donc ils disent ah c'est qui l'a choisi.
Voilà.
Bon, voilà.
On parlait justement des programmes que vous aviez qui étaient financés par le gouvernement japonais et que donc vous diffusez. Là, il y a une émission qui va entamer sa saison 2, Japanimation.
Japanimation, ouais.
Voilà. Quand tu regardes Japanimation, tu te dis que tu es content justement de le faire à ta sauce ou tu te dis ah, c'est vrai que j'aurais pu le présenter d'une autre manière, ce dont je parle.
C'est bien que ce soit différent.
Oui, ouais. Oui.
Les émissions, par exemple, de 100% de No Life sont critiquées sur le net. J'ai vu ça, c'est les présentateurs sont moches, c'est fait à n'importe pièce, etc.
C'est lui qui les écrit sur les forums anonymes.
Est-ce que l'émission de...
Ouais, il y a plus de la moitié de l'internet qui nous insulte régulièrement. Ouais, on est habitué.
Et est-ce que l'émission de Suzuka est vue différemment par les gens qui ne connaissent absolument pas No Life et qui sont un peu réfractaires ou,
Alors, il faut bien faire la différence entre le forum de No Life, où là, les gens sont plutôt sympa, même si parfois il y a ce qu'on appelle un peu des trolls, mais globalement les gens sont plutôt cool quoi. Et bah, ils savent aussi que le staff lit, donc c'est pas pareil dans la psychologie de quelqu'un qui écrit. Si c'est qu'il dit quelque chose qui va être lu par l'intéressé, il sait qu'il peut être blessant et tout, ça change tout. Par contre, si on va sur d'autres forums où les gens savent pas qu'on va lire, mais évidemment moi je vais tout voir, je google comme un malade et je check tout, donc je vais lire plein de trucs. Et là c'est ouais, ah cette fille je peux pas la supporter, elle me stresse, ouais ça critique de partout, ouais, bien sûr. Mais c'est le jeu quoi. À partir du moment où on propose quelque chose, surtout d'aussi radical que No Life, et forcément on a des réactions radicales aussi. Et en plus on touche à des domaines sur lesquels les gens sont extrêmement passionnés. Donc il y a toujours un effet de si c'était moi ce serait mieux, ils respectent pas autant que moi je respecte le sujet, alors qu'au contraire nous on a un respect infini pour tous ces sujets là. Parfois on le fait quand même avec un peu de second degré, un peu d'humour, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Mais c'est des réactions vraiment naturelles, et je l'ai dit plusieurs fois à des gens, moi j'aurais eu 18 ans et je pense que j'aurais fait pareil. J'aurais été sur des forums en disant ah c'est nul, parce que voilà, on touche à des thèmes qui prennent les gens tellement à cœur que forcément les réactions sont tout de suite enflammées.
Ouais,
je traduis. Suzuka, elle me dit que elle, ce qui la mettrait beaucoup plus, c'est qu'il n'y ait aucune réaction. Là, ce serait encore plus dur. Ouais. Ouais.
Alors, on va vous présenter quelqu'un qui est à votre gauche. C'est le monsieur qui va galoper dans une demi-heure pour revenir à la régie finale pour faire la suite.
D'accord.
Il s'appelle Duspor et désolé, mais il a le câble. Et alors, Dus, qu'est-ce qu'il y a dans ton programme télé?
Je crois que je vais être obligé de me limiter parce que justement, je vais être obligé de partir dans le temps. Alors donc, je vous avais repéré quelques petits trucs sympathiques, mais on va passer outre. Par contre, je peux pas passer outre le fait qu'il y a deux daubes magnifiques jeudi prochain, magnifiques, et qui ont un petit peu de rapport avec le Japon quand même, surtout la première, sur 13e rue à 20h40, secousse à Los Angeles. Bah, c'est normal, des secousses, il y en a aussi très souvent au Japon. Hein.
Le soleil est tiré par les cheveux. Hein.
C'est pareil, justement, j'ai senti qu'avec Suzuka, on avait un petit truc en commun, c'est-à-dire que par rapport au sujet de chaque semaine, qu'il faut se décarcasser, se triturer les méninges pour arriver à trouver quelque chose de valable et tout, trouver un angle, comme disent les professionnels, c'est en fait le hasard hein, qui... souvent te met sur le sujet quoi, et il faut l'exploiter à fond les mallettes, alors c'est pour ça quoi.
Mais celui-là aujourd'hui t'as pas fait les films avec Alex et Suzuka dans le casting?
Non quand même pas. non mais là il y a Tracy Lords quand même dans ce film, c'est l'héroïne de ce film, hein, ouais, jouer un flic et tout c'est pas mal, mais il y a également Gary Daniels et Jeff Fahey, donc
du beau monde,
réalisé par Richard Pépin sans Mary, mais ça dépote quand même pas mal.
Mary Pépin, d'accord.
Mais oui, bien sûr, les Hollywood Nights que tout le monde connaît.
Paddy et Pippin de Lord of the Rings, mais pas du tout.
Et en même temps, simultanément, jeudi prochain sur Sci-Fi, les requins tueurs, parce que petit salut à Corinne Nemec, qui est l'acteur principal de ce requin tueur, où on trouve également Corbin Bernsen. Alors bien entendu, je ne peux pas passer sous silence le Walter Hill de la semaine, Extrême Préjudice, où Walter Hill a envie de faire du Sam Peckinpah, il y arrive pratiquement, mais enfin bon, c'est quand même un très bon film, avec le casting qui tue, hein, Nick Nolte, Michael Ironside, Powers Booth, Rick Thorne, Maria Conchita, Alonso. Et il y a bien entendu le chef-d'œuvre de la semaine. Alors,
c'est aussi un petit peu dans l'angle du Japon, on va dire asiatique, mais c'est un super film, Le Bras de la Vengeance de Chang Cheh en 69, avec Jimmy Wang Yu et les autres, ça passe en deuxième partie de la soirée, vendredi prochain sur RTL9. Alors t'as rien compris, mais bon, c'est pas grave.
Alors le Bras de la Vengeance, c'est le deuxième de la trilogie.
Ouais, d'accord. Avec un seul bras les plus rapides.
Tous et La Rage du Tigre.
Voilà.
Alors je ne sais pas si c'est par politesse que Suzuka hoche la tête.
alors là on est en plein dedans maintenant. Le Japon à la télé la semaine prochaine, bah, figurez-vous qu'il n'y a aucun film. Il n'y a pas de Kurosawa, que dalle.
Ouais, mais ils ont bien quand même d'aller terrain au début du mois.
Hein. Généralement je me rattrape le reste de l'année. Par contre ce soir, très tard dans la nuit sur Arte à 3h du matin, le TGS sera terminé, donc vous pouvez vous remater, c'est une revision.
Non, il y aura des concerts. On va en parler après. Jusqu'à 3h du mat. Non, peut-être pas.
Bon, 3h du mat, c'est le track spécial Takeshi Kitano.
Ah oui.
Rediffusion, enfin bon, pour ceux qui l'ont loupé. Alors ce soir également, là je l'avais présenté lors de la diffusion du premier épisode. C'est une vieille série japonaise qui date de 75-76, Au pays des fantômes, basée sur des légendes japonaises d'antan, hein, Au pays des fantômes. Et là, bien, ce soir, c'est quand même le dernier épisode, le 13e de cette première saison, L'éventail de l'amour tragique, avec Kyo Hasegawa et Emi Kureko, entre autres. Et avec une rediffusion un peu plus tôt dans la journée, en fin de journée aujourd'hui, à 18h50, toujours sur Ciné Cinéma Club, Le Peigne Sanglant, toujours dans cette série qui s'appelle Au pays des fantômes. T'étais pas né hein, quand c'est sorti ça.
Non.
Non.
Demain sur France 3, dans le cinéma de minuit à 23h55, un film de Fritz Lang muet de 1919 qui s'appelle Harakiri. Avec Paul Binsfeld, Lille Dagobert, George Jones et Maynard Maor, Lille Dagobert qui joue le rôle de l'héroïne principale, Otake-san, qui est la fille de l'ambassadeur du Japon en Occident, qui refuse de devenir prêtresse de la grotte sacrée, et le père déshonoré doit se faire harakiri. Alors en fait c'est la transposition qu'a faite Fritz Lang de Madame Butterfly de Puccini, tout simplement. Voilà. Fritz Lang, hein, bon, on va pas raconter toute sa vie, enfin il a commencé sa carrière en 1919, il nous tape quand même 4 films, hein, dont Halb Blut le premier, Der Herr der Liebe, Die Spinne, les araignées en 2 volumes, ensuite il a fait au total 11 muets, tout ça en Allemagne, avec bien sûr un muet de Mabuse, hein, c'est sa première version de Dr Mabuse en 1922, les Nibelungen en 24, Metropolis bien sûr en 26, les Espions en 28, et Die Frau im Mond, la femme sur la lune, en 29. En Allemagne, il fait quand même 2 films parlants, c'est bien sûr les plus connus, M. le Maudit et Le Testament du Docteur Mabuse. Ensuite, il se casse, hein, en 33, il se casse, parce que Goebbels lui dit « Ouais, tu vas être notre cinéaste officiel et tout ». Lui, il est déjà à moitié juif, donc ça lui plaît pas trop, et puis il n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe.
Si tu peux parler un peu plus dans le micro, s'il te plaît, là, j'en peux
plus. Il n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe, donc bah oui, mais quand je parle en face du micro, tu vois, ça sature, quoi. Alors c'est un petit peu con. Donc il se casse carrément, quoi. Il se casse, il fait un petit film en France, Lilium, et ensuite il va aux États-Unis où il va tourner plus d'une trentaine de films, dont Fury, Scarlet Street, le Rancho Notorious avec Marlene Dietrich, Big Hit, Règlement de Compte, Moonfleet, les contrebandiers de Moonfleet, et l'invraisemblable Vérité. Puis il retourne en Allemagne pour sa fin de carrière avec le duo Le Tigre du Bengale et Le Tombeau Hindou, et Les Mille Yeux du Docteur Mabuse, qui est son dernier film, qui est traduit en français par Le Diabolique Docteur Mabuse. Donc Fritz Lang, c'est demain soir dans le cinéma de minuit avec un muet qui s'appelle Harakiri. Demain sur Canal Plus Family, alors là c'est n'importe quoi, à 20h45, Samurai Girl de Brian Spicer. Avec c'est en 3 parties, donc avec la première partie s'appelle Le Souffle de la Mort, mais alors il n'y a rien de japonais dedans, vu que l'interprète principal c'est Jamie Chung, donc laisse tomber quoi, mais il y a Brendan Fair. Demain soir sur Eurosport, c'est le début du championnat du monde de moto, avec que des japonaises pratiquement, enfin du moins dans les grosses catégories,
je m'attendais à ce moment-là.
Exception faite de Ducati.
Mais... Ah, tu parlais des motos, d'accord.
Ouais, bien sûr.
Thomas vient de tilter, je crois.
Bien sûr. Et il faut savoir que le circuit sur lequel se court la manche japonaise, une des 2 manches japonaises, c'est le circuit de Suzuka.
Yes!
Bien sûr.
Le caractère hein sinon est différente, mais voilà.
Ouais, c'est sûr. Alors, lundi sur Arte, Miyazaki, toujours dans le cycle Miyazaki sur Arte à 20h35, Le Château Ambulant. Ouais. En même temps sur CinéFX, ben, toi tu le descends à chaque fois que je le chronique, donc c'est Caserne hein, à 21h.
Ouais, c'est...
Sinon... Donc, qui est l'adaptation d'un manga hein, des années ouais. 70.
Sinon,
mardi...
Mardi, comme il n'y a que dalle, bon, il faut quand même savoir que sur MCM, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 16h30 jusqu'à 19h, c'est manga animé avec à 16h30 Black Butter que j'avais présenté la semaine dernière, hein, c'était la première diffusion. Ensuite, il y a GTO et ensuite la Bleach à 18h15. Mercredi, sur Arte, à 20h35, dans les mercredis de l'histoire, les kamikazes d'Hitler. Parce qu'il n'y a pas qu'au Japon qu'on a envoyé des bonhommes dans des avions se faire castagner sur des porte-avions. Hitler l'a fait également avec la Luftwaffe, enfin certains pilotes de la Luftwaffe, donc ça va être intéressant à voir. Et enfin jeudi sur Arte, toujours dans le cycle Miyazaki, Nausicaa de la Vallée du Vent, un de ses plus anciens en plus, hein, 84 oui. quoi. Et suivi d'un autre documentaire qui s'appelle Secret du manga à 22h30, un documentaire de Hervé Pierre Martin 2009.
Et ah, donc 3... tout récent, oui.
Ouais, tout récent. Et à 3h du mat, la série des Baby Cartes qui continue, 3h du mat, le prochain, Baby Cartes, le territoire des démons. Et voilà, ça ira.
Merci, Dus.
Pardon, excuse-moi, en fait, je vous coupais parce que je suis en train
Je suis courage, courage.
Je suis en train de jongler parce qu'en fait il y a beaucoup de bruit ambiant donc c'est un petit peu difficile. Est-ce que vous avez le temps de regarder la télé quand vous produisez pour votre chaîne ou alors vraiment maintenant c'est fini?
Moi oui, j'ai le temps.
Moi pas beaucoup, j'essaye quand même de regarder un minimum les trucs dont on parle pour me tenir au courant, mais ouais j'ai moins le temps de regarder la télé. Ouais.
Alexandre il regarde No Life à No Life et regarde No Life à la maison. Non, mais ouais. C'est en même temps que il check parce que le
parfois parce que si j'avais un problème
non, en fait j'aime bien en fait.
Et quand je regarde l'autre chaîne, il est obligé de regarder avec moi l'autre chaîne.
Je suis moins souvent sous-cas, tu peux pas remettre nos lives.
Non pas encore, ouais, mais je suis pas encore fini.
Ouais mais c'est la musique japonaise.
On va vous libérer. Vous avez plein de choses à faire.
Merci d'être passé.
Merci d'être passé. C'était très sympathique. Merci
pour l'invitation.
Merci pour tout.
Prochainement, je parle de la musique française.
Voilà. Et une des particularités de No Life, c'est que vous passez de la musique japonaise. Mais loi française oblige, loi des quotas. Vous passez des groupes indés français.
Oui.
Profites-en parce que tu es sur une radio de la Ferrarock. Lance ton appel.
Aux indés.
Ouais.
Bon, alors, si vous n'êtes pas inscrit à l'SPPF ni à l'SPPV, c'est important parce qu'on n'a pas les moyens de souscrire à ces organismes. Si vous êtes un pur indé avec un clip, même pas forcément super beau, hein, c'est pas grave, du moment que la musique est intéressante, n'hésitez pas à nous contacter, contact@nolife-tv.com pour nous proposer vos clips et vous avez 100% de chance que ça passe.
Oui, revenez avec combo bleu.
Et alors, je vais t'en annoncer une bonne, tu vois, c'est qu'on a, on reçoit des disques de groupes indés français et ils sont très fiers de mettre dans le descriptif que le clip est en rotation sur No Life.
Ah ben oui, mais je comprends, moi je serais fier aussi.
Moi aussi fier.
Par contre, quand c'est des groupes japonais,
même quand ils sont dans la prog. Si, on a des partenariats, mais il faut qu'ils sortent en français.
Oui, oui, non, mais là,
par
c'est...
exemple, là, il y a Scandale qui va sortir en français, il y a un petit truc genre numéro 1 dans le J-Top, ou si, ils le disent.
Voilà, là on va vous passer un truc, c'est pas dans votre programmation, c'est Gary qui fait techno rock pur et dur, un peu entre...
Si, on passe du Gary, hein. On a trois clips.
D'accord,
c'est le clip,
ok.
Et
de Aino et ou New Dance, t'as le choix entre les deux.
Hey now, moi je préfère Hey now.
Hey
now, hey now.
Mais Gary c'est difficile à chanter.
Oui.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Yeah.
Marina Bargari, extrait de leur single qui est en rotation d'ailleurs actuellement sur FMR. Vous nous écoutez en direct de la Beige, de Diagora pour le TGS Wanami Festival, plus orienté autour des cultures japonaises que le Toulouse Game Show tel que vous le connaissez. Et j'en ai qui n'ont pas peur de faire cosplay malgré cette saison quand même. En avril, tu te découvres pas d'un fil, hein, c'est censé être comme ça. Et donc, on a deux collectionneurs de cellulo qui sont avec nous. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, donc présentez-vous. Julien, je suppose, voilà, Julien est à ma droite, et Thomas est à ma gauche, et on a un autre Thomas qui va revenir, je vous rassure. vous êtes là pour vous représenter en fait plus vous-même ou plus l'association Les Télévores?
Alors, via Les Télévores, on représente plus nous-mêmes et nos collections de cellulo qu'on a l'honneur et l'avantage de présenter pour cet opus du Toulouse Game Show.
Vous présentez en fait une collection que vous avez fait vous-même, que vous avez commencé à assembler autour de cellulo. C'est vrai que c'est un petit peu à part, hein. Dans la salle, vous avez peut-être un peu moins de bruit, je suppose.
Il y a Coucou Circus à côté, donc on a un peu.
D'accord.
C'est vrai que c'est pas indiqué, donc on a pas beaucoup de monde qui vient.
Vous étiez déjà présent, je crois, lors des précédentes éditions.
Alors, sur le stand des Télévores, dans les précédentes éditions, oui, effectivement, on était présent et il y avait des cellulos qui étaient affichés.
Juste une question. Thomas, peut-être tu vas commencer, pardon. Tu avais peut-être une question à leur poser pour commencer.
Oui, donc vous vous occupez d'une exposition sur les cellulos. Comment vous êtes venu à collectionner ce genre d'objets? Est-ce que c'est une passion pour les animés en général ou juste une passion pour l'art peut-être?
Je sais, moi c'était pour une dédicace. Et puis après, l'année suivante, comme on est complètement fondu d'anime, c'est parti sur la collecte. Aussi bien des cellulos que moi des crayonnés de One Piece par exemple, entre autres.
Alors pour ma part, j'adore tout ce qui est film, et ça a été une possibilité de joindre effectivement ce qui est artistique et constituer une collection artistique et s'approcher de l'animation.
Ben non. Pourquoi vous êtes venu à cette démarche d'exposer en public votre collection? Est-ce que c'était par narcissisme ou pour faire partager?
Alors c'est plus pour moi, c'est plus pour faire partager.
Ah, tu veux dire que pour Thomas c'est par narcissisme?
Pardon. Vu qu'il est en l'office, ça peut être.
Bon, en fait, comme on connaît Romain Duchesne, on lui avait proposé de faire une expo de cellulo et il avait été assez emballé, donc. Voilà, on était parti là-dessus.
Alors, dans l'exposition qu'il y a, sont principalement des dessins animés des années 70-80. Il y a Nadia et le secret de l'eau bleue, j'ai vu passer
Sherlock Holmes, il y a
du Nicky Larson,
du Matsumoto.
Ouais.
Il y a à peu près tous les opus de Matsumoto, puisque c'est une. De mes collections, moi, un de mes axes de collection, et ça va de la bataille des planètes, plutôt Gatchaman, jusqu'à One Piece, grâce au crayonné de Thomas.
Après 1999, ils ont arrêté de faire des cellulos, hein. Ils font plus que du crayonné, hein. Malheureusement.
Quitte à choisir, est-ce que vous préférez acquérir un cellulo d'une série que vous adorez mais qui est super cher, ou d'une série finalement que vous n'avez même pas en DVD mais qui est pas cher et qui ailleurs vous prenez?
Les deux. Les deux en fait, parce que le truc s'il est pas cher, il y en a que des fois qui sont à 3 à 4 euros.
Oui,
il y a certains cellulos qui coûtent vraiment pas cher.
Ça va même en dessous d'un euro, mais c'est le tout petit cellulo où il faut la loupe pour voir le sujet.
Ah, c'est le cil? Ouais. Pour faire le battement de style du personnage,
quasiment. Pour moi, ça, oui. Jusqu'à une scène complète d'auteur très connu, alors comme on est dans le domaine japonais de Miyazaki, où là, on peut avoir plusieurs centaines d'euros c'est le moyen. Après, ouais, ça dépend si c'est une synthé, si c'est un cellulot d'animation entre le début et la fin de la séquence.
Et est-ce que un cellulot peut prendre de la valeur justement si c'est, comme tu disais, une synthé avec le grand moment que tout le monde a en mémoire du film? Et est-ce que ça les prix peuvent varier?
Attends. C'est quoi que tu définis comme synthé?
Alors, une synthé, c'est au moment...
C'est synthé au niveau histoire ou c'est une synthé au niveau technique?
C'est les deux. Généralement, la synthé au niveau histoire technique se joignent, puisque avant de faire la réalisation, il y a les storyboards et ils définissent les moments importants de l'histoire. Et c'est à ce moment-là que l'animateur en chef, généralement, réalise quasiment lui-même le cellulo.
Le scène clé, c'est en fait l'image clé, c'est l'image de début et l'image de fin de scène, et après on met des intervalistes derrière.
Alors globalement, souvent oui, et de temps en temps il y a des animations qui sont un peu plus compliquées où là l'animateur pendant l'intervalle va faire la scène compliquée.
Et est-ce que le prix des cellulos peuvent varier en fonction du film qu'a réalisé un même réalisateur? Par exemple, on peut penser qu'un cellulot d'un Nausicaa n'est pas le même qu'un cellulot de Mononoke, par exemple, pour le prix.
Tout dépend du nombre de cellulos à la disposition et du nombre de collectionneurs. C'est forcé qu'un film très connu avec beaucoup de collectionneurs qui recherchent ce domaine, ce cellulot va valoir cher. C'est sûr, par exemple, un cellulot de Goldorak, on voit Goldorak dans une position très connue, va valoir beaucoup plus cher que quand on voit un personnage de second rang de dos en train de courir, par exemple.
Et alors, est-ce que c'est vrai que les cellulots des dessins animés hentai prennent cher?
Il y en a qui les recherchent. Personnellement, j'en ai pas.
Oui, enfin, ça, c'est ce qu'on déclare à la radio en général.
Là, vous les montrez pas, en tout cas.
Bye. On les voit pas souvent non plus sur la place publique.
Alors, est-ce que vous vous intéressez, puisque là, bon, c'est vrai qu'on est plus autour de la culture japonaise, est-ce que c'est principalement le dessin animé japonais ou c'est un peu de tout, c'est-à-dire aussi la production européenne, la production américaine ou la production russe?
La production russe, non, je connais pas des masses la production russe, mais non, un peu de tout, genre les choses comme Le Maître du Temps de Mobius. Ou alors tous les trucs qu'on a vu quand on était plus jeune.
Moi c'est
Les mondes engloutis, ouais, genre de choses.
C'est pareil, moi c'est l'animation en général. Donc dans ma collection j'ai des maîtres de l'univers par exemple. Donc j'ai principalement que de l'américain et du japonais. J'aimerais bien voir de l'européen, mais effectivement c'est des cellulos qui sont pas très courants et excessivement chers.
Un petit mot sur vos entre guillemets concurrents. Vous êtes combien collectionneurs français de cellulos? Est-ce que vous diriez que vous faites partie des plus grands collectionneurs? Est-ce que vous êtes des petits amateurs par rapport à d'autres? Quels sont les plus gros collectionneurs? Est-ce que ce sont les Français, les Européens, les Américains, les Japonais?
Alors, pour voir sur eBay, par exemple, qui est une des sources d'approvisionnement, les cellulos mis à la disposition, j'aurais plutôt tendance à dire que les Américains sont assez en pointe, les Japonais sont pas mal, et il y a des très gros collectionneurs européens et français, dont je ne fais pas partie, qui ont des cellulos, qui collectionnent depuis pas mal de temps, et qui ont des cellulos comme d'Ulysse 31, importants.
Alors, on a interrogé l'an dernier un galeriste spécialisé dans les planches originales de bande dessinée et qui se fait l'interface entre les artistes et les acquéreurs potentiels de planches de BD. Est-ce que le même type de démarche, même type de circuit existe pour le cellulo en lui-même?
La différence avec les cellulos...
C'était Daniel Maga, hein, j'ai oublié de préciser.
La différence avec les planches de bande dessinée et les cellulos, c'est que c'est la propriété souvent des studios. Donc longtemps les studios, pour eux c'était que des moyens de production pour faire un dessin animé, donc ils les balançaient à la poubelle. Donc c'est comme ça que les premières
trompette.
Oui. C'est comme ça que les premiers collectionneurs ont pu acquérir des cellulos. Et maintenant c'est souvent les studios qui vendent les cellulos aux collectionneurs.
Ah non, ils se sont rendus compte de la mine d'or, quoi, ils ont balancé des trucs énormes.
est-ce qu'il y a des fois où vous dites demain, je ne sais pas si je pourrais attendre jusqu'à demain pour aller voir le banquier pour négocier un prêt qui vaut le prix d'une Mercedes, mais là,
non,
celui-là je le veux.
Non, pas moi.
J'aimerais bien, mais mon banquier veut pas.
Non, moi j'achète quand j'ai de l'argent, et puis si j'ai pas d'argent, tant pis, j'achète pas.
Donc là, vous faites une exposition tout à l'heure. Il y a, je suppose, un petit peu d'animation sur comment on produit un film d'animation. Est-ce que vous avez eu envie justement de participer à ce genre d'aventure en amateur, à voir comment ça dans les faits?
À un moment donné, j'aurais bien aimé, mais ne sachant pas dessiner, ça a été un peu difficile. Et ayant eu la chance de croiser des personnes comme Derriès et Jean Chalopin, vu la charge de travail et l'investissement personnel nécessaire, j'ai donc vite abandonné le projet.
Ouais, pareil, je sais pas
et, qui et est-ce que les producteurs y sont accessibles comme ça, en leur disant si vous retombez, si vous redescendez dans votre cave et que vous voulez vous en débarrasser, je suis prêt à y mettre un bon prix?
Généralement, ils ont déjà distribué les cellulos ou les ventes. C'est assez difficile.
Est-ce que en dehors des cellulos, vous êtes atteint de collectionnisme aigu et que vous collectionnez, enfin c'est un grand mot, vous collectionnez autre chose en rapport avec les animés ou peut-être avec d'autres univers?
Moi, je suis un polycollectionneur, donc entre autres, oui.
Une grande maison, donc.
Non, j'ai un petit appart.
Et toi, Thomas?
Oui aussi, BD, manga, dédicace, un peu de tout quoi, figurines.
Alors vous n'êtes pas de Toulouse en fait, vous êtes de quel coin plus en restant vague, hein, pas besoin d'être précis.
En ce moment je suis sur Paris.
Pareil, pas loin, lui.
Et vous faites le tour de ce genre de convention pour les présenter ou ça reste de l'exceptionnel, hein?
Là c'est la première fois qu'on expose, donc on voulait voir comment ça se passait, et puis, si ça se passe bien on va essayer de continuer.
Ah d'accord, c'est une première avec les cimaises et les gardes.
Oui là c'est une première.
Les petites étiquettes.
Les petites étiquettes faites tard la nuit, donc effectivement.
Ouais, on fait pas tous les salons, hein, uniquement à Paris et puis là sur Toulouse, mais c'est pas possible, il y a des salons tous les week-ends sinon. Hein.
D'accord.
J'en finis plus quoi.
Est-ce que vous aimeriez poser, avant qu'on vous libère, poser un appel quelque part ou donner une adresse pour au moins on peut voir justement vos collections?
Ah mais je ne connais pas les adresses quoi.
Est-ce que vous avez un site web?
J'ai pas de site web, mais il y a des collections genre manga ou BD qui sont sur des sites. Mais...
Alors sur le webring Matsumoto, qui fédère les différents sites de Matsumoto, il y a un site qui référence tous les cellulos de Matsumoto. J'ai pas l'adresse en tête, mais en y allant vous pouvez y aller voir.
D'accord. Julien et Thomas, merci beaucoup.
Merci de nous avoir accueillis.
Bah, et puis bonne convention.
Merci.
Et surtout n'hésitez pas à venir nous voir.
On va balancer la nouvelle qui fait horreur, hein, puisqu'on sait que Albator va enfin être adapté au cinéma. Mais cette fois-ci, c'est pas des Français qui vont adapter Albator au cinéma, puisqu'il s'agit de Shinji Aramaki, c'est ceux qui avaient fait l'adaptation en 3D d'Appleseed. Premières images, moi je regrette franchement le projet français qui avait été mené par Olivier Dahan. Il y avait quand même R et Daft Punk qui était prévu à un prog musical. Bon bah voilà. Là de suite on va passer à quelque chose de nettement plus rock, puisque donc
on va vous passer du Lamia Cross. Elle est en concert, ils sont, puisque c'est un groupe, ils sont en concert ce soir donc au TGS ici à Diagora la Belge. Lamia Cross, et justement, eh ben, on a Lamia qui est la chanteuse du groupe. Alors, je ne vais pas faire l'affront de le dire en japonais. Donc, bonjour et enchanté de te rencontrer.
Konnichiwa.
Donc, en fait, Lamia Cross est un projet franco-japonais. Alors, il va falloir que je retraduise derrière.
Ouais, c'est en même temps, c'est mon nom de scène.
Je parle en français.
Ah ouais, ça fait quand même 15 années que je suis en France. Donc, j'ai appris pas mal de trucs, quoi.
Alors, justement, raconte un peu.
ton projet, comment il est
né? En fait, voilà, je suis arrivée il y a 15 années en France. Pourquoi? Parce que j'avais rencontré pendant les vacances scolaires, que j'étais encore étudiante, à Fab, qui est à l'Est. Et donc ensuite, eh ben, on a commencé à proposer des trucs et, qui ne ressemblaient à rien du tout au départ.
Et puis, en général, on commence toujours comme ça. Hein.
Voilà, dans notre chambre et tout, tu vois. Et petit à petit, bah, nos compos commencent à se rassembler, soit disons, toute une chanson, quoi. Et donc voilà, ça a démarré vraiment comme ça.
Alors, si je prends mes services de renseignement, mademoiselle, vous avez recruté des guitaristes français. C'était parce que vous les aviez sous la main ou parce qu'ils sont tombés sous votre charme?
Tu parles de qui exactement? De Fab?
Ben, il va falloir que tu présentes un peu ton groupe, justement.
Ouais, ben, en fait, au départ, on est duo. C'est un projet que j'ai démarré avec mon homme, qui s'appelle Fab, qui était déjà guitariste quand j'ai rencontré. Et c'était un projet personnel qu'on a démarré ensemble. Et un jour, on s'est dit, bon, ben, peut-être un autre guitariste, c'est pas mal. Hein, et puis, et voilà.
Donc c'est principalement parce que là quand même il y a de la boîte à rythme et du synthé, donc comment ça se passe scéniquement, c'est-à-dire que
Le truc c'est que moi j'ai toujours été fan de techno, disco, tout ce qui est de électro et qui est fait avec boîte à rythme. Donc j'avais un petit blocage là-dessus, j'aimais pas trop. Je suis désolée pour des vrais batteurs, mais les vrais sons de batterie, je suis pas trop habituée quoi. Et Fab, bah, lui, il a une culture très heavy, heavy metal des années 80. Et qui fait que notre mélange, c'est ainsi. On fait du dance metal, donc c'est moitié, c'est à la base, c'est moitié, donc truc disco, techno, mais avec de la guitare.
Et dans tes influences les plus directes, ce serait plutôt Prodigy ou plutôt...
Oui, voilà, les premières versions Prodigy, ça c'est un truc que j'ai écouté quand j'étais étudiante. Mmh. Et, bah, quand j'ai rencontré Fab, je connaissais rien du tout en rock. Et ensuite, voilà, je me suis intéressée à l'univers gothique. Et voilà. Mais okay. Ça a toujours été un peu new wave, son électro, quoi. J'adore ça, cet univers.
Et est-ce que tu as commencé à être connu plus au Japon ou en France?
Ah non, au Japon, je te dis, j'étais étudiante, quoi.
D'accord.
Donc, je suis installée en France parce que bah, mon mari, il était là.
D'accord.
Voilà, mon mari, mon homme.
Oui,
après, on s'est mariés, mais voilà.
Alors... Dans ce cas-là, quelle a été la discographie du groupe? Je crois qu'il y a eu un single, puis ensuite... enfin, ça commence toujours par un single.
Non, alors on a fait l'inverse, c'est-à-dire on a démarré par un album qui est sorti en 2004, qui était très très gothique metal. Ça sentait peut-être beaucoup moins électro, peut-être. Mais comment dire, c'est un peu plus dark au niveau de l'univers, hein, parce que à l'époque vraiment j'étais à fond mouvement gothique quoi. J'étais fan de Type O Négatif et de Paradise Lost et
Battle. Oui, tout à fait, voilà. On connaît bien la prog, hein.
Ah, j'adore. Mais maintenant hein. Et ensuite, donc ça c'était en 2004. En 2006, on a fait un double maxi... Non, on dit double single parce que c'est un...
C'est EP ou sinon?
Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait deux CD single qui s'appelle Chic and Heavy et que j'en ai plus maintenant. Et ensuite, 2008, on a sorti Yamazakola, ça c'est un album de 10 titres. Ouais. C'est à partir du moment où j'ai commencé à chanter en japonais, en mélangeant un peu de japonais l'ancien, de mettre un peu plus en avant du côté traditionnel.
Ah oui,
japonais. Et tout en restant moderne, un peu la folie quoi.
C'est un peu, enfin c'est pas typo négatif, c'est bah oui, Paradise Lost, où il mêle un peu, des fois un petit peu d'anglais ancienisé. Donc c'est pour des sonorités principalement ou pour la poésie.
Tu parles de quoi, de typo négatif ou
non, non, du japonais traditionnel.
Ah non, en fait j'ai pris des, j'ai carrément des je cite l'ancien poème de 7 à 11e siècle dans des chansons. Et bah, vous devez connaître, c'est du premier roman japonais qui a été écrit par Murasaki Shikibu, qui s'appelle Genji Monogatari.
Donc qui a été adapté.
L'histoire de Genji. Ouais.
Voilà, qui a été adapté, le dit du Genji qui a été adapté en manga.
Vois, voilà,
en
a c'est parlé, ça. Ouais.
Qui a...
Donc voilà, moi, et, par exemple, la chanson Yamazakura que vous allez peut-être mettre un jour. Hein. Et là, donc ça commence par ce petit poème de Hikaru Genji.
Oui, voilà. puisqu'on a passé Ravens, donc ça on le passera tout à l'heure en interruption musicale.
D'accord, parce que Ravens c'est fait partie d'un extrait de notre mini-album qui est sorti l'année dernière.
Ok, voilà. Ça donc actuellement surtout un mini-album, distribution chez disquaires indépendants.
Alors distribution, en fait on a un distributeur américain qui s'appelle CD Baby, donc... on peut commander à la FNAC, mais ça reviendra trois fois plus cher
oui.
que de commander sur Amazon ou sur notre site, quoi. Bah, d'ailleurs, on est à Toulouse, nos disques ils sont disponibles chez Tokyo Café.
D'accord.
Et même pendant la convention, bah, sur les stands.
D'accord. Sur les concerts principalement, donc c'est un choix du fait que vous retrouvez surtout dans ce type de convention comme le TGS ou un ami.
Eh ben, disons que on a des offres qui viennent des conventions.
Ah d'accord, c'est, ils viennent vous voir spontanément.
Ça dépend. Il y en a, j'ai postulé. Et l'autre, il me propose, donc ça dépend des conventions.
Ok. Et quel est ton public en dehors des conventions? Est-ce que ce sont des gens qui vont aussi aux conventions ou
Ouais, et ben, en général, ils sont fans de l'univers Japon. Donc, ils ont large tranche d'âge, de 13 à 30 ans.
Mais pas de métalleux à cheveux longs, alors
Ça dépend, parce que sur MySpace, des fois, oui, je donne des gens, bah oui, mais ils sont plutôt des chiens morts, là. Mais voilà, ils viennent hein, de temps en temps, hein, et après ils viennent, oula. Voilà, bon, ça dépend.
Est-ce que tu aimes justement le côté, c'est quelque chose que on connaît très indirectement en France, le côté visuel, le côté mise en scène du rock japonais ou le côté scénique?
Ah, des visualités et tout ça, non, en fait, moi personnellement, j'ai pas été très fan de ce mouvement.
Ou tu préfères Cradle of Filth, c'est-à-dire cracher
non,
du sang?
Non plus, non, c'est en fait, voilà, à l'époque, par exemple, quand X Japan il était en plein... activité au Japon, j'étais plein à fond dans le mouvement gothique. Et donc les gens ils me prenaient ah non, ça doit être des groupies de X Japan. Mais non, moi je peux être groupie de typo négatif, mais voilà. Bon, après c'est autre histoire. Mais, non, je suis pas du tout influencée dans les. Bah, je les connais pas beaucoup, quoi, en fait.
Ok, de fan à fan, qu'est-ce que tu penses des groupes qui essaient de se relancer en se remettant dans cette vague-là, comme Front de K2 ou Prodigy, les derniers albums, tu les as trouvés comment?
T'es pas obligé. Je sais pas.
D'accord.
Non, parce que là, en ce moment, en fait... Non, c'est pas ça, c'est-à-dire que là, en ce moment, au niveau des disques, c'est pas moi qui mets dans les lecteurs à la maison. Ça veut dire que on a un petit souci, c'est un peu personnel, mais j'ai un gros, ouais, mais c'est pas dérangeant. C'est un grand problème chez moi, c'est que il y a des désordres quand je veux écouter un truc et je trouve le CD, enfin la boîtier.
Il n'y a pas le disque dedans.
Le CD, il n'est pas dedans. Donc à partir du 10e essai, moi je me touche plus à ce placard. Donc c'est Monsieur Fab qui s'occupe de tout. Donc j'ai la tendance de découvrir de plein de groupes comme Rammstein, les Metallica, tout ça, bah, tous ces héros, quoi. Et moi, je suis pas faite pour être femme de ménage non plus, donc c'est pas mon délire. Hein. Je suis désolée, je vais pas ranger des 40 000 CD.
D'accord.
Je fais pas de puzzle. Hein. Voilà.
Outre ça, quels sont les prochains projets de la Mia Cross?
Alors, actuellement, donc on essaye de composer éventuel prochain opus. Mais sinon, donc, alors, dans cette région sud-ouest, le mois prochain, le 22 mai, on reviendra à Perpignan pour ouvrir le concert de Henri Policino. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
C'est pas moi qui fais la part musicale.
Ouais. C'est un groupe Visual Kei qui vient du Japon. Qui est géré par Gekido Tour en France. Donc ils ont une tournée européenne dont une date à Perpignan, c'est le 22 mai. Et nous on fait la première partie. Voilà. Ça c'est du plus proche. Bah, après les autres dates, je ne suis pas encore autorisée à en parler, donc
d'accord, ok,
ça bon, va être surprise.
Surprise, surprise.
Ouais.
La Mia Cross donc sera en concert ce soir. Après Red Rice, si je me trompe, c'est à partir de
non,
quelle heure?
Vous avez, c'est 21h30. Je croyais que c'était 20h30, mais non, en fait, c'est 21h30. Voilà. Ah tiens, je peux même rajouter un truc. Ah, notre clip en Roses Whisper avec guitariste, guest guitariste, on va dire, Yann Armelino, qui a fait de battle, guitar battle avec Pata de X Japan. Voilà, ça c'était au mois de juillet, donc là, ce clip, normalement, d'après Suzuka-chan de nos lives, ça va être en diffuse ce mois-ci. Mais je ne sais pas encore à partir de quand. Et sinon, il y a l'interview sur MCM qui va passer aussi le mois prochain, mais je ne sais pas encore quand.
Donc voilà. Ça y est, ça
c'est des choses que ça je peux en parler.
Ça commence à décoller sur le plan média, comme
j'espère.
On dit.
Et là aujourd'hui je suis ravie d'être avec vous sur en direct sur FMR.
Merci Lamia. Yamazakura, donc ce dont tu disais tout à l'heure que c'était pris du dit du Gendi.
Ouais.
Voilà.
On dit comment en français?
Le dit du Gendi, je crois.
Dit quoi?
Non mais je prononce super mal.
C'est pas grave.
Donc extrait de l'album qui s'appelle
Yamazakura.
Yamazakura, d'accord. En tout cas, mille merci et puis donc
merci
à ce soir
à vous
pour le concert.
Et bonne convention.
Et merci à tous.
Omokage wa mi o mo hanarezu Yamazakura. Kokoro no kagiri tomete koshikado. Yoru no mano kaze mo ushiromete na. I'm not too high, you're my poison, 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 I'm not too high,
し角距離の窓風も後ろめてた Your face doesn't go away But stays in my loneliness I am just part of my world There just for you
Écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end en direct de Diabora à la Beige pour le TGS Oanami et on a l'un des organisateurs qui du coup
le webmaster et présentateur de l'émission Karimba.
En fait je suis aussi responsable association et bénévole également du salon Toulouse Game Show. Les organisateurs c'est plutôt Sébastien, Frédéric et Romain.
Donc on t'a pas mentionné, donc c'est Rafi que nous recevons, que nous avons déjà reçu dans le supplément week-end. Depuis il y a eu deux éditions supplémentaires dont celle-là qui est un spin-off du TGS le papa. Alors comment ça se passe, comment tu vis ça de l'intérieur, l'évolution de ce festival?
Par rapport...
Oula, il y a un petit problème de câble, attention. Ouais, prends un autre micro, je crois que c'est le mieux. Prends l'orange. Voilà.
On m'entend mieux?
Ouais.
Ouais, alors là voilà. Par rapport au TGS, mais écoutez. Il y a une bonne évolution, il y a de plus en plus de visiteurs chaque année. Par rapport au mois de novembre, en tout cas, sur deux jours, on arrive à attirer 17 000 visiteurs. Ça a été le score de l'année dernière. En tout cas, là, sur le Hanami, c'est une première édition pour le mois d'avril, plus axée sur la culture japonaise. C'est quand même plein, donc on est quand même content. Ouais,
et on est encore que samedi. Et en plus, il fait beau, ça va être la folie après.
Ça
va être l'horreur.
Ça me change de voir des gens qui sont en bonnet, en yangang pour venir. Là, les gens peuvent profiter.
C'est sûr. Et puis bon, après, c'est marrant aussi de voir les gens à l'extérieur qui vont manger. Parce que c'est vrai qu'au mois de novembre, on peut pas trop le faire. Ils restent tous à l'intérieur pour manger, alors que là, ils sont tous à l'extérieur, prendre l'air.
Alors il faut savoir aussi que le TGS ce n'est pas seulement à l'espace d'Agora la Beige, mais il y a des petites organisations de soirées au cours de l'année. Ce sont des soirées avec des petits concours de blind test sur scène et des installations de bornes arcade également. Combien il y en a à peu près par an?
Alors on avait organisé les soirées TGS Night Show à l'époque, donc on en a fait deux. Pour l'instant, bon, je peux pas trop en dire non plus, mais on va en faire bientôt. Pour l'instant, c'est en discussion. Parce que c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver des salles pour le samedi soir. Et après, on fait d'autres soirées un peu plus axées jeux vidéo, parce que c'est quand même notre passion à la base. Donc voilà.
Là, c'est un petit peu la récréation par rapport au vrai Toulouse Game Show, si je puis dire. C'est un peu plus réduit, un peu plus ambiance. T'es satisfait du monde qu'il y a ou... Enfin, je veux dire, des exposants...
Alors oui, non,
globalement. Attention à ce que tu vas dire. Hein.
D'accord, non, globalement, on est quand même content. Il y a du monde, enfin, je veux dire, ça circule, le stand Coucou Circus, les stands musicaux sont pleins, enfin, à ce niveau-là, pour moi, enfin, moi, je suis content, en tout cas. Après, les organisateurs, je pense qu'aussi, ils sont contents.
Voilà. C'est ce soir jusqu'à 19h-20h
22h jusqu'au dernier concert.
Voilà, le concert se termine à 22h.
Exactement.
C'est pour les couche-tôt, tu penses aux petits.
Voilà. Oui, parce que c'était pas exactement ce qu'avait dit Lamia tout à l'heure qui sera en concert. Donc je crois qu'elle s'est un peu trompée.
D'accord, oui, normalement elle est en concert à 21h et elle termine à 22h30, je crois, ou quelque chose comme
ça. Elle nous a dit 21h30 tout à l'heure, tu verras ça avec
d'accord, elle. D'accord, oui, je verrai, parce qu'a priori il doit y avoir un malentendu.
D'accord.
D'accord, en tout cas merci encore une fois de nous accorder notre confiance et on remercie encore une fois l'équipe technique de Diagora qui s'est pliée en quatre et tous ceux qui ont bien voulu prendre de leur temps en tant qu'exposant pour venir exprimer leur passion à l'antenne. Donc voilà, Thomas, s'il te plaît. Oui.
Est-ce que je peux te résumer le début d'émission pour ceux qui l'ont pris en cours de route?
Merci, j'ai pas le prompteur sous les yeux, c'est pas évident.
Du coup, moi je fais ton intro et je n'ai pas écrit le conducteur de l'émission, donc on va citer pêle-mêle Lamia Cross que nous avons reçu, Rafik qui est juste à côté, on a eu Solarus, on a eu Laurence et Charles-Louis pour nous parler de leur club de Kyudo, on a eu également, Julien et Thomas pour leur exposition sur les cellulos, et puis
tu oublies tu oublies Alex et Suzuka.
Et Alex et Suzuka, bien sûr, de mon life, pas des moindres.
Pour une fois, c'est pas moi qui ai la mémoire qui flanche. Remplacer cette parenthèse par une interjonction en japonais. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez écouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplementweekend.fr. Supplementweekend.fr sans accent ni tiré. Et c'est que du bonheur. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM qui va prendre la suite sur la FM à partir de 17h et en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, retour au studio avec une partie des trucs qu'on avait prévu, en bouche trou, si jamais tout le monde nous
scotche. En bouche trou, c'est pas bien de parler comme ça de certaines œuvres.
On a eu des invités formidables, voilà, on a eu un plateau qui était génial et un son littéralement à chier. Merci à l'organisation du TGS événement, staff de Diagoar Labage, l'assistance cubaine de Solarus a enflammé pour le catering. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et j'espère que du sport ne nous a pas encore coupé la régie. Il est 14h01 et 10 secondes. Ciao, bye bye.
Ciao.